Chers amis, Hachem Alechem Tihyu, le Orechemim Tovim, le Chanim, le Aimim. Nous sommes dans Parashat Miketz. À présent, nous allons nous pencher sur le problème que les commentateurs soulèvent, c'est que Yosef aurait pu informer son père de son existence, qu'il était vivant, qu'il était bien, en bonne santé, qu'il avait réussi. Pourquoi s'est-il abstenu d'informer son père? Alors certes, au début, il ne pouvait pas le faire. Après, il a passé 12 ans en prison, il ne pouvait pas le faire. Mais dès qu'il est placé en tant qu'au début des années d'abondance, alors là, il aurait pu, quand il était déjà introduit dans ses fonctions de gouverneur de l'Égypte, il aurait pu informer son père. Il s'abstient de le faire. Puis, nous allons voir plus loin que la descente en Égypte est celui qui demande aux frères, à ses enfants de descendre en Égypte, c'est Yaakov. Voyez Yaakov qui est chez vers Mitzrayim. Voyez Yaakov les banav la ma titraou. Voilà, Yaakov s'est inspiré, Rachid dit, par inspiration, ou bien par, on peut dire qu'il a vu, il n'y a pas marqué qu'il a entendu, la famine frappe toute la région. Donc il n'y a pas marqué qu'il a entendu par des voyageurs qu'il y a des réserves, qu'en Égypte il y a beaucoup de blé et de céréales. Il a vu, Vayar Yaakov qui est Shever Mitzrayim. Donc il a vu qu'en Égypte il y a Shever. Donc il y a de la subsistance, il y a de quoi se nourrir, de la nourriture en Égypte. Et il dit à ses enfants de ne pas tarder. Après, donc certes, il est dit après, Vayomer Ine Shamati qui est Shever Mitzrayim. Voilà, j'ai entendu il a entendu quand il s'adresse à ses enfants, mais en fait, il ne veut pas dire j'ai vu. Alors, ça se dit pas. Mais en réalité, il a une inspiration. Par inspiration, il l'a vu qu'en Égypte, il y a de la subsistance, de la nourriture. Redouchama, il leur dit descendez en Égypte. Vishivrulanum misham, venihye velonamut. Apportez de la nourriture là-bas, achetez de la nourriture, de sorte que nous vivions et nous ne mourrons pas de faim. Alors là, il dit, Vayerdu Ahei Yosef Asara, Lishbor Bar Mimitsraim. Ils sont descendus à 10, les frères de Yosef. Là, il semble indiquer qu'ils sont Ahei Yosef. Donc, Rachid dit qu'ils descendent à 10. Et ils sont tous Ahei Yosef dans l'intention. Il dit, on va en profiter aussi pour aller le chercher. Donc, si on nous sommes prêts à le racheter à tout prix. Donc la question qui se pose, pourquoi avoir attendu si vraiment ils veulent se racheter en ramenant leur frère à tout prix, donc ils auraient pu le faire avant. Pourquoi avoir attendu? Donc ils veulent pas, et ils attendent que Yaakov, c'est Yaakov qui déclenche la descente en Égypte en fait. C'est ça l'idée qui est mentionnée ici. Ils descendent à 10. Pourquoi? Parce que quand ils ont vendu Yosef, il a aussi, ils étaient 10. Réhouven n'était pas présent. Donc, ils ont fait un bed-din. Ils ont décrété que Yosef doit être vendu. Et qu'ils ont fait un cherem et un nidouille sur celui qui va dévoiler la chose. Donc, inclus dans ce nidouille, même Yosef ne pouvait pas dévoiler. Et le statut, du fait qu'ils l'ont vendu, le statut de Yosef par rapport à ses frères, c'est qu'à présent, il est esclave. Il n'a pas de droit à la parole. Et c'est un statut qu'il va garder tout au long de sa vie. Et c'est les frères, donc c'est Yaakov qui décrète. Donc ils n'ont pas, c'est comme si que la descente en Égypte est déclenchée par celui qui détient le pouvoir sur la famille, c'est Yaakov Avinu. Donc ils descendent en Égypte de telle sorte qu'ils sont 10, Rachid dit qu'ils sont rentrés de différentes manières, et que, comme si c'est inspiré par HaKadosh Baruch Hu, la providence guide les décisions de Yaakov, on lui dévoile cela, dans l'intention que justement les choses, que l'histoire se développe et que la solution de sa situation, que Yosef, qu'en fait l'histoire se déroule telle que le projet divin l'a institué, selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc Yosef, il descend à 10, il rentre, Rachid nous dit qu'il rentre par 10 portes différentes pour chercher Yosef, chacun va allant dans un quartier, etc., pour chercher Yosef. Donc quand ils achètent, ils se présentent devant Yosef, Yosef les reconnaît. Donc et tout le processus ici de l'accusation, « Vaya Yosef et Teha, vaya Kirem, vaya Itnaker, Aleim », il ne s'est pas dévoilé à eux. Et il leur parle durement, il les accuse d'espionnage, etc. Toute cette tracasserie qu'il va faire contre ses frères, c'est dans une seule idée, c'est que les frères s'amendent. C'est-à-dire la tchouva, on ne peut pas imposer la tchouva, la réparation. Parce que là, ici, il ne s'agit pas d'avoir commis, les frères ne sont pas accusés d'avoir commis un péché secondaire. Ils ont commis quelque chose de grave par rapport à la position de Yosef. Donc, il faut arriver à véritablement comprendre que la problématique qu'il y a, c'est la relation entre Yosef et ses frères. Quelle position Yosef a dans la famille? Alors, il est dit dans la paracha précédente, El et toldot Yaakov Yosef. Donc, la descendance de Yaakov, c'est Yosef. Donc, comme si que Yosef, il est la continuité de Yaakov. Et après vient les frères. Alors, et le père, Yaakov lui fait une tunique, qui ben zikunim ulo. Donc, c'est Yosef, il est l'enfant de la sagesse, zikunim. Ça fait référence à la transmission de la Torah et des secrets, de l'essentiel. L'essentiel de ce que Yaakov possède comme connaissance, comme inspiration divine, il le transmet à Yosef. Et c'est ça la tunique royale qu'il lui fait. Donc c'est Yaakov place Yosef au-dessus des frères. Et c'est ça le sens des rêves. Et alors les frères ne comprennent pas cette position. Est-ce que ce Yosef, c'est notre frère ou notre père? Donc il n'arrive pas à saisir sa position. Et en fait, de manière, dans la Kabbalah, dans la structure de la Kedusha, de la structure de l'arbre séphirotique, nous voyons que la structure de l'arbre séphirotique, elle est à l'image du corps de l'homme. Donc il y a... cette structure-là est formée de 3 étages. À chaque étage, il y a 3 sphères, 3 dimensions, 3 éléments qui se conjuguent. Au niveau de l'intellect, il y a les méninges qui font référence au Keter. Après, l'hémisphère droit du cerveau qui est la Chochma, l'hémisphère gauche du cerveau qui est la Bina. Donc ça se situe au-delà de la dimension de l'espace. Puis vient l'espace, et l'espace a 6 côtés, c'est comme un cube, et dans ce cube-là, il y a le bras droit, le bras gauche et le buste, Avraham, Isaac et Yaakov. Puis viennent les 2 jambes et le membre, qui sont attribués à Moshe à droite, la jambe droite, et à Aaron, qui ne sont en vérité que deux morceaux du même corps, puisque les jambes sont faites pour marcher, et on ne peut pas marcher avec une seule jambe, alors que les bras sont faits pour agir, mais chaque bras peut agir de manière indépendante. Et le membre, c'est celui qui est Yosef, fait en sorte de canaliser toutes les énergies de tout le système pour les influer, pour les déverser dans ce qu'on appelle le malchut. Le malchut, c'est le réceptacle, la royauté, David Ameler. Et c'est là, dans ce réceptacle, que se placent les frères. Les 12 tribus sont dans le malchut, sont dans le réceptacle des énergies de toute la structure. Donc en fait, ils reçoivent de Yosef. Yosef, c'est le canal par lequel les énergies passent. Et nous remarquons que le buste est attribué à Yaakov, alors que le membre est attribué à Yosef. Et c'est le pilier central. Donc c'est Yosef et la continuité du pilier central de Yaakov. Et ça, la dimension d'incompréhension. Et c'est notre frère, mais en fait, il est placé au-dessus. Alors, il n'arrive pas à le saisir. Donc, ils l'ont rejeté. Et s'il le rejette, il manque quelque chose à Yaakov. Donc, comment réparer ça? Il ne s'agit pas uniquement de faire tshuva, il s'agit de regretter le geste, mais de regretter ce qu'ils ont fait, mais de le replacer à sa place, d'accepter. Parce que les frères étant les receveurs, on ne peut pas donner à quelqu'un ce qu'il ne veut pas recevoir. Si on a de l'argent pour donner à la tzedaka, pour donner aux pauvres, il faut que, donc on veut donner, on veut distribuer cet argent-là à quelqu'un pour subvenir, pour l'aider, il faut que celui à qui on s'adresse accepte de recevoir. S'il refuse de recevoir, c'est la même chose pour l'enseignant. L'enseignant est prêt à enseigner, mais il faut que le disciple accepte de recevoir l'enseignement de son maître. Et si on donne l'enseignement et les élèves n'écoutent pas ou ne se désintéressent, donc il n'y a rien qui se passe. Donc il faut qu'ils acceptent. Et accepter non seulement l'enseignement, mais aussi accepter de recevoir de telles personnes, de ce maître-là. Donc c'est ça la situation dans laquelle ils sont. Donc c'est pour ça que Yosef ne dit rien. Il ne peut pas dire. Parce que s'il va informer son père qu'il est vivant, donc ça va susciter une obligation pour les faire de réparer. Et eux ne peuvent pas, on ne peut pas imposer la réparation. Il faut que la réparation vienne de ceux qui ont détérioré. Donc c'est pour ça qu'ils sont à 10. Ils sont 10 parce que ils englobent la structure. Yosef et Benjamin Benjamin n'est pas un problème, mais Yosef, il est exclu du système. Il n'est pas dans le système. C'est ça l'idée, que Yosef va les accuser, va les pousser à bout, de telle sorte qu'ils réparent leur erreur. Et c'est l'apogée de cette idée-là se retrouvera lorsque la famille sera reconstituée, Yosef retrouvera sa position et il rencontrera son père. Et son père, au moment de la rencontre, il a marqué que Yosef a embrassé son père et son père a lu le schéma. C'est-à-dire que le schéma étant le dévoilement de la finalité, ce qu'il y a au début, c'est-à-dire que l'espace-temps, comme dit Srachamim, que le début touche la fin et le temps se contracte. En réalité, l'espace-temps, le temps qui passe, va permettre à ce qui était à l'idée initiale de se réaliser totalement à la fin. Sauf le kécher, le lien qu'il y a entre le début et la fin. La fin réalise l'idée première qui a précédé le temps. Donc c'était l'idée première, c'était Kiben Zikuni Moulo. Yaakov désigne Yosef comme étant le fils qui va qui est son prolongement. Ça a été empêché. Et là, ça se réalise au moment de la rencontre entre Yaakov et Yosef. C'est pour ça que Yosef ne peut pas informer son père. C'est là l'idée. Les frères sont amenés à réparer. Maintenant, il y a une autre idée qui est extrêmement importante. C'est que Yosef a été vendu. Il n'a pas le droit de parler. Il est esclave. Il a un statut d'esclave. Et c'est d'une importance capitale, nous dit le Rama Mipano, parce que c'est ça qui va permettre, donc nous voyons que dans la paracha, il est dit, Pharaon dit, avant que les frères ne descendent en Égypte, il est dit, va-t-il av kol eres mitzraim? Donc, l'Égypte était emprise par la famine. Le peuple a crié à Pharaon, lui demandait du pain. Et Pharaon dit, voyons mer Pharaon, les chol Mitzrayim, les chol Yosef. Allez chez Yosef. Asher yomar lachem ta'asu. Ce que Yosef vous dira de faire, vous ferez. Donc il leur ordonne de se soumettre à Yosef. Et là, donc Rashi dit que eux aussi avaient fait des réserves, mais les réserves de tous les Égyptiens avaient pourri. Parce que Yosef leur dit, pourquoi vous avez pas fait des réserves? On a fait des réserves, ça a pourri. On dit, oh, qu'est-ce que je peux faire? Allez voir Yosef. Et pourquoi ça a pourri? Pour que justement tous les Égyptiens aient besoin de Yosef. Comme si que Yosef, il est le maître des Égyptiens. Le peuple égyptien est sous la domination, la gouvernance totale de Yosef, qui n'est qu'un esclave. Il est l'esclave de ses frères. Et de telle sorte que l'ensemble de l'Égypte appartient par transitivité aux frères. Ça, c'est ça ce qui nous dit le Rama Mipano, qui plus tard, quand les Égyptiens vont asservir les Bnei Israël, ils ne pourront pas. C'est-à-dire qu'en fait, l'asservissement des Égyptiens que fait subir l'Égypte à Israël est illégal. N'a pas un statut d'asservissement. Parce que, en fait, tous les Égyptiens étaient soumis à Yosef, du fait que c'est lui qui leur a sauvé la vie en leur donnant des réserves, de la nourriture. Mais Yosef lui-même était le serviteur de ses frères, donc tout appartenait au Bnei Israël. Donc c'est cette notion, c'est celle-là la clé, la raison pour laquelle la possibilité qui est donnée, qui est introduite au départ, de pouvoir sortir de la sortie d'Égypte. Sinon, d'un point de vue juridique, il était impossible au Bnei Israël de sortir d'Égypte, parce qu'ils ne pouvaient pas perdre leur statut d'esclave. Alors que là, il est dit de manière claire que le statut d'esclave qui a été imposé au Bnei Israël en Égypte est un statut qui était illégal. Parce que les Égyptiens étaient eux-mêmes redevables, soumis à Yosef, qui était lui-même l'esclave de ses frères. Donc nous avons ici le système, comment le système est articulé de telle sorte que tout cela va amener à la sortie d'Égypte, à la libération de l'Am Israël, dans la finalité, dans l'idée, afin de recevoir la Torah. Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen.